cette dernière table ronde de l'année, autant le dire tout de suite, la session fut dense. On y parle test, stratégie de mise à jour du framework .NET et de ses packages Nuget, de Green IT avec l'index de durabilité d'Azure, de déploiement d'applications avec le Wix Toolset, d'IA avec la roadmap de sémantique kernel, et enfin un peu de lecture pour la plage avec le dernier numéro de programmé. Alors plus que jamais, montez le son et rendez-vous au premier pull request. Bien, et bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce 24e épisode de notre podcast préféré DevDevDev.net. Aujourd'hui, donc, on a notre table ronde mensuelle, ce sera la dernière de la saison 1. On va laisser les vacances de juillet et août passer pour reprendre en septembre. D'ailleurs, il y a déjà des compatriotes qui sont déjà partis en vacances. Heureusement, on n'a que les meilleurs qui sont restés. Donc, on a d'abord Gérald de Barré. Bonjour.
Salut.
Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2020 et auteur du blog Mesiantou.net. Et MVP renouvelé depuis le 1er juillet. Félicitations.
Merci.
On a également Christophe Homer. Bonjour.
Hello.
Microsoft MVP depuis 2022, renouvelé lui aussi depuis quelques jours, dans la catégorie développeur technologie, freelance et auteur du site de e-learning HTS-learning et animateur et auteur de plusieurs livres sur C#, Docker, Blazor et j'en passe. On a également Michel Perfetti, bonjour.
Salut.
Microsoft MVP renouvelé lui aussi, décidément, depuis 2006, bonjour. Catégorie développeur technologie, MCT sur Azure et les technologies DevOps et CTO chez Celenza. On a également François Tonic, bonjour.
Bonjour.
Lui qui n'est pas MVP.
Non.
Mais qui est rédacteur en chef du magazine Programmé, du magazine... du magazine Pharaon Magazine, ouais. Et de Technosaur.
Oui, tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à tout le monde.
Et on aura Jérémy Janson qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Lui, il fait sa sieste en début d'après-midi et elle est un petit peu longue et donc il arrive toujours un petit peu en retard. Lui aussi, Microsoft MVP est renouvelé depuis peu. Bien, et ben on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec Gérald qui voulait nous parler des snapshot testing. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ?
En fait, c'est quelque chose qui est très utilisé dans d'autres écosystèmes. Par exemple, en JavaScript, c'est quelque chose qu'on voit très, très régulièrement. Par contre, en .NET, c'est vrai que c'est pas... Enfin, moi, dans les projets que je vois, etc., c'est un peu moins utilisé. Pourtant, il y a les libs qui permettent de le faire aussi, là. Donc, pour ça, je voulais me présenter un peu la pratique qui vient s'additionner à toutes les autres qui existent déjà. C'est pas un truc qui remplace tout, là. C'est quand ça marche bien pour votre cas, bah, vous pouvez l'utiliser. Là. L'idée du snapshot testing, en gros, c'est quand on écrit un test, on exécute le code qu'on veut exécuter, bien évidemment, et à la fin, on écrit des assertions. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que telle propriété a telle valeur ? Et donc, pour faire ça, bah, en gros, quelle que soit la lib qu'on utilise, c'est assert.equal la valeur que j'ai envie de tester et la valeur attendue, sur l'ordre selon les libs qu'on utilise, là. L'idée dans un snapshot, c'est différent, c'est dire assert mon objet, on ne dit pas la valeur attendue. La première fois qu'on va lancer le test, en gros, il va serialiser l'objet et puis le stocker dans un fichier à côté. C'est stocker le snapshot dans un fichier à côté. Et donc, la deuxième fois qu'on va exécuter le code, bah, il va vérifier que le snapshot, il matche bien le cas actuel. Là. En gros, c'est dans les grandes lignes, c'est ça. Donc, l'intérêt de ça, c'est... Déjà, de simplifier l'écriture des tests, en général, parce qu'on va se retrouver avec... au lieu d'écrire des assertions manuellement, c'est le code est généré automatiquement, donc c'est plus simple. Puis si jamais on change notre code et que le snapshot doit changer, vu que ce sont des fichiers, on peut se retrouver avec des diffs, mais des vrais diffs. On n'a pas juste un message d'erreur qui dit « la valeur attendue, c'est ça, et toi, tu m'as passé ça, avec potentiellement des valeurs tronquées, etc. » On a vraiment, on peut ouvrir un diff dans VS Code ou dans Visual Studio, etc. Donc il y a ce niveau-là qui est assez pratique. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que quand on utilise ça, les gens ont tendance à asserter un peu plus de choses que ce qu'ils feraient autrement. Parce que quand on doit écrire les assertions manuellement, on est que ça, ils n'ont pas envie de faire trop. C'est ça, forcément. Donc là, quand on a juste à dire assert l'objet, toutes les propriétés de l'objet peuvent faire partie du snapshot. Donc c'est plus simple. Puis surtout, comme on a moins de coûts de maintenance, parce que si jamais on change notre code, les tests, on peut en un clic les modifier. Donc on n'est pas à chaque fois à devoir maintenir, si on a mis 10 assertions et les 10 changent, au lieu de le faire manuellement, un clic, on accepte le nouveau snapshot. Ça améliore le coût de maintenance. Puis ça donne aussi des tests qui peuvent être un peu plus expressifs, dans le sens où quand on a par exemple un test où on a 5 assertions les unes après les autres, on dit cette propriété doit avoir telle valeur, celle-là doit avoir telle valeur, celle-là doit avoir telle valeur. Là, on a juste un fichier, qu'on va séparer les fichiers après, mais on a un fichier qui contient une serialisation. On pourrait imaginer que c'est du JSON. En pratique, les libs n'utilisent pas du JSON, elles font autre chose. Mais on peut imaginer ça pour schématiser. Et donc, en gros, en un coup d'œil, on voit toutes les propriétés d'un coup, d'une façon lisible et connue par les gens. Là, parce que quand on voit du JSON ou YAML, ce sont des formats connus, donc faciles à lire. Ça donne un peu plus d'expressivité aussi dans l'assertion et dans ce qu'on veut valider. Et un des problèmes que moi j'avais rencontré avec les snapshot testing, c'est comme par exemple des libs comme Verify en .NET qui permettent de faire ça, vont générer un fichier à côté. Donc quand tu lis ton test, tu as le fichier à côté. Donc c'est pas très facile de voir qu'est-ce qui est vraiment attendu. Donc pour ça, il y en a qui ont inventé ce qu'ils appellent le inline snapshot testing, où en fait le snapshot va se retrouver dans le code directement. Donc là, on a la cert, le snapshot est mis à cet endroit-là, quoi. Donc ça devient beaucoup plus lisible.
Ouais. Michel, tu voulais dire quelque chose ?
Ouais, ça veut dire aussi qu'il faut que le test soit passant dès la première fois, quoi.
En gros, quand tu génères ton premier snapshot, c'est à toi de vérifier est-ce que c'est ce que tu attends vraiment, là. Ouais.
Et je pense que ça vient aussi peut-être de certaines déficiences ou manques dans certains langages, parce que je vois, quand j'écris je maintiens une appli en Kotlin, j'ai des objets qu'on appelle ça des data class, donc c'est des objets vraiment où Kotlin sait comparer champ à champ. Donc c'est un peu comme tes snapshots en fait. Je dis je renvoie un objet, mon domaine renvoie un objet que je connais pas, c'est une data class. Je dis j'ai ma data class que j'attends et je dis compare-moi les deux et les outils de diff de test font déjà la différence. Donc j'ai l'impression que c'est parce que le langage qu'on utilise ne gère pas vraiment ces objets là qui sont plus proche, ce serait les records qu'on aurait avec tout est clair en constructeur. Et c'est l'équivalent. Et je pense que c'est aussi ça qu'on a ces outils-là, parce qu'on a des objets trop flexibles.
Mais après, c'est aussi les scénarios, je pense. Par exemple, pourquoi c'est très utilisé en JavaScript ? Parce qu'en général, dans un certain type d'application JavaScript, mais on pourrait trouver la même chose en Blazor aujourd'hui, c'est que tu fais ton test, tu as inserté ton composant Blazor, qu'est-ce qu'il output comme HTML ? Tu vois, là, les gens utilisent souvent des snapshots pour justement dire, prends le contenu exact, et puis snapshot ça, et puis écris-moi le HTML qui a été généré. Quoi.
Ouais, j'ai déjà vu ça dans des libres de composants, peut-être, pour vérifier que le rendu, c'est toujours le même.
C'est ça, oui. Donc c'est pour ça que c'est peut-être plus dans l'univers JavaScript, c'est plus utilisé parce qu'il y a beaucoup de composants dans ces composants web là, donc peut-être c'est plus utilisé dans ce cas là. Maintenant qu'on fait Blazor, on peut aussi l'utiliser nous, hein. Ouais. C'est ça, donc en gros ça, donc il y a les snapshots, donc ça génère les fichiers à côté, donc ça c'est très bien, notamment quand on a des très gros fichiers ou quand on a par exemple des fichiers binaires, genre une image, parce que par exemple Verify supporte ça. On peut prendre un screenshot, par exemple si on fait un website, on peut prendre un screenshot de la page, le sauvegarder. Puis après, il y a même des outils de comparaison un peu avancés. Si le snapshot n'a pas changé à 5% de différence maximum, etc. Bref, on peut faire les choses avancées. Mais quand on se retrouve à avoir des snapshots avec du texte, comme on parlait avant, juste par exemple un composant HTML, tu n'as pas envie d'avoir un fichier à côté, parce que justement, tu as cette notion-là d'aller chercher le fichier à côté. Donc, le inline snapshot testing permet d'avoir ça. Donc en .NET, moi, je n'avais pas trouvé de lib qui le faisait à l'époque, là. Donc, peut-être ça a changé depuis, mais sur nugget.org, quand je tapais inline snapshot, il n'y avait vraiment rien. Donc, j'ai fait une petite lib, donc dans Mesiantou framework .inline snapshot, qui permet de faire ça. Surtout maintenant, quand c'est Sharp 11, on a les raw strings, donc qui permettent de déclarer des strings de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible dans le code. Je trouve que ça s'adapte bien, là. Donc c'était un peu l'idée de présenter cet outil-là et de... si les gens veulent essayer, là, il y a une première version qui existe. Donc il y a Verify qui existe depuis plusieurs années maintenant pour certains des fichiers. Et puis là maintenant il y a une lib aussi de inline snapshot testing. Puis des choses qui sont prises en compte aussi quand on design ça, c'est, je parlais des composants HTML, mais un autre cas vraiment intéressant, enfin moi je l'ai utilisé plusieurs fois en ce cadre-là aussi, c'est tester une API. C'est-à-dire que quand on teste une API, ben on va faire un call à l'API, et on a un HTTP response message, et là on doit asserter dessus. Donc certains, par exemple, c'est UJSON, vont desservir des objets ou faire des choses comme ça. Là, par exemple, avec la lib de Inline Snapshot Testing, on peut directement dire Inline Snapshot.validate la réponse. Et ça se réalise, ça crée un snapshot qui contient à la fois le status code, tous les headers et le body. Potentiellement avec du formatting si on veut prendre les choses plus lisibles aussi. Donc, voilà, c'est des choses qui permettent de simplifier aussi l'écriture de test et, comme je disais avant, de tester plus de choses. Parce que combien de gens valident les headers à chaque fois quand ils testent leur API, etc. Pas grand monde. En général, parce que c'est chiant à écrire.
Ouais. Mais quand on a des objets qui sont complexes ou justement au niveau de la sérialisation, ça devient compliqué, ça peut pas fonctionner, ça.
Bah, ça dépend de ce que tu fais, en fait. Par exemple, moi, ce que j'ai pris comme partie quand j'ai fait ma lib, c'est de pas utiliser les librairies de sérialisation qui existent, que ce soit JSON, XML ou YAML. Parce qu'en fait, un des problèmes de toutes ces librairies-là, c'est qu'elles génèrent du texte qui est pas forcément lisible par les gens. Parce qu'en fait, elles ont un prérequis qui est que c'est une lib de... Ça permet de sérialiser, mais aussi de désérialiser. Donc quand elles sérialisent, elles doivent pouvoir déchiffrer ce qu'elles ont écrit, quoi. Mm-hmm. Et pouvoir être désérialisées. Or que dans le cas de Snapshot, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de pouvoir sérialiser, parce qu'on aura juste besoin de comparer à la fin de Snapshot. Et donc, on peut se permettre de faire des choix qui rendent les choses beaucoup plus lisibles, et même de sérialiser des objets qui ne seraient pas désérialisables. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir cette bidirectionnalité. Donc c'est pour ça que, par exemple, un HTTP response message, tu passes ça en JSON, il va te dire non, clairement, il ne veut pas le faire. Par contre, nous, on peut le faire, parce qu'on peut faire des choix et on n'aura pas besoin de désérialiser, quoi. Mm-hmm. Donc, on peut supporter beaucoup plus d'objets que ce que d'autres libs font.
D'accord. Et toi, Christophe, tu utilises des...
Alors, pas du tout. Non, vraiment pas. Moi, je suis un vieux de la vieille, j'écris tous mes asserts à la main. Moi, je suis un résistant, quoi. Mais ouais, ça peut être intéressant. Alors, peut-être que... À la limite, la question que je me posais, ou ce qui pouvait à la limite me faire peur, c'est de me dire, bah, du coup, est-ce que ça risque pas de cacher certains éléments de façon sous-jacente, surtout aux personnes qui sont pas familiarisées avec les tests, et du coup, de créer une espèce d'hostilité, voire de personnes qui arriveront pas à rentrer dans le truc, quoi.
C'est une façon de faire différente, là, de ce que t'es habitué à faire. Donc, forcément, c'est un peu, faut s'habituer, là.
Ah, ouais, après.
C'est moi, je l'utilise pas partout, clairement. C'est pas quelque chose qui remplace tous les asserts autrement. Là. Mais par exemple, c'est ça, quand on écrit, tu vois, il y a des cas où on a des automations et on doit écrire des messages à l'utilisateur. Mais les messages, ils sont composés avec des strings concat, là, etc. Bah, tu vois, ce genre de messages-là, quand tu veux les asserter autrement, surtout quand c'est des messages qui font plusieurs lignes, bah, tu te retrouves à faire est-ce que ton message contient quelque chose parce que tu as un peu la flemme de tout gérer. Là. Puis si jamais tu modifies, tu avais une typo, tu n'as pas envie de modifier dans ton code et dans ton test. C'est typiquement des cas où tu vas pouvoir utiliser le inline snapshot testing pour avoir ton message, c'est complet, lisible. Ce qui fait que si dans ton test, tu vois vraiment, OK, qu'est-ce que ça va te donner tu vois. Ça te donne une preview de ce que ton code fait. Là. Donc ça peut avoir des intérêts.
Ouais. Oui, clairement.
Ok. Bon, merci Gérald. Donc, ta lib, là, pour l'instant, elle est en alpha, en bêta
Techniquement, elle marche. Je l'utilise en production sur plusieurs applications. Donc, on peut dire qu'elle marche. Après, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Donc, forcément, peut-être qu'il y a des cas qui marchent moins bien, là. Mais si les gens l'utilisent, ils peuvent remonter ouvrir des issues. Il n'y a pas de souci. Ce sera bien d'avoir des gens en plus pour utiliser. Justement, il y a HIP un peu ça, là.
C'est sur ton GitHub, là.
Ouais. Je te mets dans la discussion, que toi, tu pourras le mettre dans les notes de
l'émission.
De l'émission,
ouais. Ok. Bien. Eh ben, on va passer à Christophe, qui, lui, voulait nous parler des différentes versions de .NET. Là, on a la 8 qui va arriver, qui va être une version en LTS, si je ne m'abuse. On avait la 7 qui était en STS et on avait la 6 qui était en LTS. Donc, tu voulais nous parler justement de ces différentes productions de .NET.
Ouais, les différentes versions. Bah, en fait, c'est assez simple. Hein. Comme à chaque fois, quand on engage des discussions avec des clients, c'est ah, c'est quoi la version actuelle? C'est .NET 7. Ah ouais, mais .NET 7, c'est STS. Nous, on attend soit de la 8, soit on reste sur la 6. Et bah, c'est vraiment très, disons que c'est plutôt une question d'opinion. Et l'idée, c'est d'avoir un peu aussi le ressenti, le feedback de tout le monde autour de la table par rapport à ça. C'est que j'ai un peu du mal à comprendre cette logique de toujours vouloir absolument viser la LTS. Alors, je comprends l'argument qui est de dire, OK, on a 3 ans de mise à jour. Mais par contre, les mises à jour qu'on va avoir pendant 3 ans, c'est uniquement des pages de sécurité ou des bug fixes qui sont critical, quoi. Parce que clairement, quand on voit les mises à jour de Microsoft sur les versions .NET, quand on suit un peu l'actu, les bug fixes, c'est vraiment des trucs qui sont ultra bloquants, parce que tout ce qui est un peu innovation, qui est modification, qui apporterait plus de productivité ou plus de choses, vont se retrouver dans la prochaine version. Peu importe qu'elle soit LTS ou STS d'ailleurs. Et dans l'idée, c'est de, je vois beaucoup de gens aussi qui se retrouvent du coup bloqués sur une version. Alors, on a de la chance, on est bloqué sur .NET 6, je dis pas. Mais par exemple, il y en a certains, ils étaient en .NET Core 3.1. Quand je les ai coachés sur Blazor, il y avait .NET 5 qui était là. Et ils ont dit, ouais, mais en fait, tout ce que tu nous présentes, on pourra pas l'utiliser parce que nous, on veut que les STS en entreprise. Les LTS, pardon, en entreprise. En fait, à titre perso, je trouve pas ça forcément intéressant de viser que la LTS, sachant qu'en fait, de ce que j'en vois moi par rapport à ça, Microsoft met exactement les mêmes efforts pour produire une LTS qu'une STS. Quand on regarde .NET 7, les efforts qui ont été mis dedans en termes d'amélioration de perf, d'ajout d'API, de modification, ça vaut le coup de passer de .NET 6 à .NET 7, clairement. Enfin, je veux dire, même, on prend juste une toute petite partie. Ce qu'ils ont fait dans Link, c'est un truc de dingue par rapport aux fonctions arithmétiques, les sums, min, max et average. Ça peut changer la face d'une API. C'est un peu con de se priver de trucs comme ça juste parce que non, c'est pas une LTS. Et puis quand on regarde un peu le calendrier aussi, au final, la durée de vie, quand bien même .NET 7 est marqué comme STS, en fait, elle va s'arrêter juste 6 petits mois avant .NET 6. Et en plus de ça, Microsoft met quand même pas mal d'efforts pour que la migration de la version N à N+1 soit faite de la façon la plus fluide possible. Donc en fait, à titre perso, je trouve pas ça utile de dire on vise que de la LTS. Pourquoi pas à chaque fois faire la mise à jour vers la version majeure qui est là? Alors certes, on peut attendre 1 ou 2 mois qu'il y ait les premiers patchs, parce que par exemple .NET 7 avec Blazor, ils avaient fait une coquille sur le binding avec les bindings get set. En fait, il était complètement foiré dans la 7.0, donc il a fallu attendre le premier patch. Donc ça, je peux comprendre qu'en entreprise, on attende les patchs 1 et 2 de la version majeure. Mais après, est-ce que c'est vraiment intéressant de rester que sur des LTS? Perso, je le fais pas et voilà, c'est
la discussion. Mais après, c'est peut-être un traumatisme des anciennes versions de .NET Framework où on ne pouvait pas installer une version side by side et ça écrasait la veille de la précédente. Et les gens n'ont peut-être pas encore compris le modèle de distribution de .NET, quoi.
Ça peut, ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est pareil, hein. T'as encore des gens qui disent « Ah, mais tu fais du .NET, mais ça doit te coûter un bras, puis tu restes que sous Windows avec les licences. »
Ouais. Oui, voilà. Moi, je pense que c'est un grand parti, c'est assez culturel et c'est des habitudes d'entreprise aussi qui sont pas compatibles avec la vitesse à laquelle les nouveaux frameworks sortent.
Oui, moi, je rajouterais un petit point quand même, toi, si tu as une application qui est en développement actif, il n'y a pas de souci à passer sur les versions majeures. Si tu fais juste du support, ton application, elle est là, tu n'as plus de développeur actif dessus, tu es sur une LTS, bah, reste sur ta LTS, là, tu n'embêtes pas à migrer, de toute façon, elle marche et tu n'as pas de choses à faire, là, bah, très bien. Réduit le coût de maintenance, quoi.
Et après, ouais, si tu as une appli qui vit, genre tu as une appli qui va évoluer dans le temps et du coup,
Si c'est en développement actif, on met à jour. Ouais.
D'accord, quand tu as un développement actif, même si elle est en prod,
quand tu fais un composant.
Actif, c'est des développeurs qui travaillent dessus, quoi. Si personne travaille dessus et qu'elle est juste là en prod, bah, elle marche, quoi. Mais juste les pages de sécurité, et c'est bon, quoi.
Tu vas avoir quand même un problème, c'est qu'au bout d'un moment, la LTS, c'est entre guillemets que 3 ans, donc tu vas devoir migrer. Ouais, en gros, quand .NET 6 meurt,
tu feras un travail, quoi.
Bah, quand .NET 6 meurt, ce sera .NET 9 qui sera là, donc il faudra faire à .NET 8. Tu fais un saut de 2 versions avec les risques que ça comporte. Enfin,
c'est un choix de coût.
Ouais.
Et après, quand tu fais une bibliothèque de composants, vaut mieux rester sur la LTS pour que tu sois sûr d'arroser le plus d'utilisateurs possible. C'est-à-dire que si tu as une bibliothèque de composants et que tu passes sur la STS, tous ceux qui sont sur la LTS pourront peut-être pas l'utiliser.
Bah, avec les libs de composants, généralement, ouais, bah, quand tu vois les libs officiels ou les libs vachement utilisés, ça target plusieurs frameworks. Donc, ce serait un peu con aussi de te limiter dans ta lib de composants que tu distribues, de dire, ah bah mince, je peux pas migrer en STS. Juste dire, bah voilà, tu sais, avec les if, les directives de précompilation, if.NET 7, if.NET 6. Et comme ça, alors certes, ça nuit un peu à la lisibilité, mais ça te permet de profiter des dernières innovations, quoi.
Non, mais il y a des parties où tu peux juste mettre des polyfills pour même pas avoir besoin de t'embêter avec des yes if dans certains cas là, quand c'est possible.
Ouais, moi je vois dans un autre domaine qui est le domaine Angular, où là c'est tous les 6 mois qu'il y a une version majeure.
Donc... Ah, en fait, après, alors, ce qui est quand même assez amusant, c'est que vous décrivez exactement les discussions qu'on a dans le monde Java depuis que Oracle a changé les protocoles de mise à jour. Et en fait, on a exactement les mêmes questions, les mêmes problématiques et les mêmes interrogations maintenant côté .NET, alors qu'on a ces discussions-là depuis maintenant 6-7 ans dans mon Java. Donc en fait, on ne remonte rien à ce niveau-là, sauf que effectivement, le LTS, alors si on prend côté Java, est privilégié, ça c'est clair et net, côté entreprise, parce que l'entreprise ne prend pas de risques. Elle veut un support long et notamment le support officiel Oracle. Voilà. Et c'est vraiment dit comme ça et c'est fait comme ça. Et après, le problème dans mon Java, alors peut-être moins dans le monde .NET et C#, c'est que durant très 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 longtemps, beaucoup d'applications sont restées en Java 6, Java 8, Java 9 et Java 11. Donc des versions qui ont au minimum 6-7 ans. Voire 10 parfois. Ouais. Et en fait, c'est que maintenant qu'elles commencent à migrer sur des LTS un petit peu plus récentes. Je pense effectivement plutôt à la 17, qui est sortie il y a quand même maintenant quelques années. Enfin, non, même pas. Hein, si, elle est sortie il y a 2 ans. Oui, c'est ça, il y a 2 ans. Et c'est que maintenant qu'il commence à migrer. Donc, en fait, je pense que dans le monde C#, en fait, on va se retrouver avec les mêmes questions, les mêmes problématiques et mises à jour que l'on a déjà dans le monde à Java. Donc moi, ça ne me surprend pas que vous ayez ce genre de discussion et que les entreprises elles réagissent comme ça. Ça, c'est pour moi, c'est même étonnant qu'on n'ait pas vu ça avant.
Et dans le monde Java, c'est combien de temps une LTS en termes de support?
C'est au minimum 3-4 ans. C'est 3 ans minimum. Attends, je regarde les docs. Non, pardon. Les LTS en actif support, donc en support actif, c'est 5 ans.
Ouais, voilà. Tu prends les LTS Ubuntu, par exemple, c'est 10 ans de support. Ouais. Là, la LTS Microsoft, c'est 3 ans.
T'es au niveau système, t'es pas au niveau langage.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais en fait, dans la tête de beaucoup de développeurs, LTS, long terme, c'est 3 ans, ça fait court, quoi.
C'est très, très court. 5 ans, t'es dans des cycles, entre guillemets, standards, dans de l'IT classique de prod.
Bah ouais, tu prends même Visual Studio, regarde, ils sont encore en train de supporter les versions, il y a deux, je crois, qu'ils sont encore supportés.
Mais Richard a raison de dire, c'est que dans mon figure Angular, mais JS en général, c'est des versions tous les 3-6 mois, tu as des projets, c'est tous les 3 mois, mais c'est une cadence totalement infernale en fait. C'est qui va se permettre de mettre à jour en prod tous les 6 mois, c'est pas tenable.
Puis après, tu as le monde IBM ou c'est tous les 30 ans?
Alors, non. Alors là, je te rectifie tout de suite. Alors, tu as deux choses. COBOL, effectivement, c'est une spec qui n'évolue pas aujourd'hui. Ça, c'est clair. En fait, il n'y a pas eu de version majeure depuis 10 ans, à peu près. Mm-hmm. Ce qui va changer, ce sont les systèmes Z. Donc, tout ce qui est mainframe, anciennement mainframe, où là, tu es sur un cycle matériel de 5-6 ans. En fait, c'est cyclique. Par contre, le COBOL, il reste au COBOL. Par contre, c'est l'enveloppe que tu as autour qui change par des cycles de 5-6 ans. Mmh. À ce niveau-là. Voilà. Ouais. Mais effectivement, plus largement, c'est une question que tout développeur, que toute entreprise doit avoir, c'est comment on met en place une politique d'upgrade. Comment on maintient les stacks techniques, à quel moment on met à jour, à quel moment on ne met pas à jour, parce que tu as des évolutions entre le langage et le framework. Si tu prends Flutter, Dart, il n'évolue pas de la même manière que Flutter en lui-même parfois. Donc en fait, tu as des décalages dans la stack elle-même.
Ouais.
Donc, il faut un référentiel. Il faut bien un référentiel.
Ah bah, oui, oui, avec ça,
des ce que les entreprises n'ont pas forcément. Quoi.
Non. Ah bah, ça, c'est fait à la main ou même c'est pas fait du tout entre nous. Hein.
Oui, après, j'allais dire, il y a aussi un niveau plus bas. Enfin, il y a l'OS, il y a le langage, et puis après, il y a,
oui, tout à fait.
Il y a les différents composants. La mise à jour des packages NuGet au sein des applications.
Ah bah, évidemment, évidemment. Et moi, j'ai encore en tête un souvenir là, d'une conf que j'avais fait il y a quelques mois sur Kotlin, où tu as des intervenants, ils nous ont parlé de l'horreur de gérer les dépendances en Kotlin.
Oui. Mmh.
Et c'est franchement une horreur totale. Hein.
Ouais, bah, JavaScript aussi. Hein, quand tu...
oui, oui, ça c'est pareil. Mais en fait, ça c'est des éléments qui sont la base de notre travail, mais que beaucoup de devs ou d'équipes aujourd'hui oublient.
Mmh.
Et ça peut provoquer de jolis dégâts.
Non, parce qu'on va prendre une conf qui marche et puis on ne va plus y toucher pendant des mois.
C'est ça.
Et puis il y a Log4j qui arrive. Et plus personne sait comment mettre à jour les packages, et c'est l'apocalypse. Parce que personne s'est intéressé.
Ah, voilà.
Un gars qui a fait ça dès le début, qui a fait la compte dès le début. On va mettre à jour le package, tout explose. Il n'y a plus rien qui marche, et c'est.
Ouais.
Et tout le monde s'affole.
Ouais. Mais c'est comme il y a quelques années, tu avais des rapports sur les serveurs PHP actifs qui te disaient que tu avais la moitié des serveurs web qui fonctionnaient en PHP 5. Alors qu'on était déjà à la 7, je crois, et que le PHP 5 il n'était plus supporté. Quoi. C'est, et tu as des trous béants de sécurité. Hein, voilà. C'est, bon, bah, à un moment donné, ça se paye tout ça. Hein.
Et Christophe, c'est quoi ta stratégie. Je recommence. Ta stratégie par rapport justement au package NuGet.
Alors moi, je suis un fervent des mises à jour parce que j'ai des gros filets de sécurité. En fait, le seul projet que j'ai qui m'appartient, sur lequel j'ai une totale latitude, c'est ma plateforme d'e-learning. Mm-hmm. Et c'est plus le petit projet que tu fais dans ton coin qui a pas de truc. Aujourd'hui, ça génère du chiffre d'affaires et il y a des gens qui comptent dessus, des entreprises qui sont inscrites. Donc, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Mais malgré tout, de façon systématique, là, je vais le faire ce soir très probablement. Quand il y a le patch Tuesday qui sort, donc avec les mages du framework, je fais aussi tous les patchs de NuGet communautaires. Alors, j'ai eu des mauvaises surprises, mais elles sont catchées dans mon pipeline de release Azure DevOps qui fait des tests end-to-end, en fait. C'est-à-dire que généralement, c'est des soucis qui interviennent sur certaines manipulations. Tu vois, les manipulations critiques, comme par exemple le processus d'achat ou tout ça, je l'ai codé en end-to-end pour être certain que ça marche quand je livre une version. Ça va me permettre de foirer ça. Pareil, quand quelqu'un veut accéder au player de vidéo, je m'assure que ça charge bien le player pour le coup et tout ça. Donc, je suis assez safe là-dessus. Cependant, toutes les boîtes n'ont pas ce niveau de sécurité et de filet. Donc, le truc, c'est que là, par exemple, je bosse avec un client et ils ont des packages qu'ils ont 4 ou 5 ans d'âge, quoi. Parce qu'ils osent pas mettre à jour, parce qu'ils se disent, ouais, j'ai essayé une fois, ça m'a frisé mon application. C'est une application de trading, donc tu te doutes bien que tu peux pas faire quoi. Et donc, ils freinent des cas de fer pour mettre à jour les packages. Parce qu'il y a eu un changement de perf qui implique une réécriture de certains algorithmes qui est breaking change. Et à cause de ça, ils touchent pas, donc ils mettent pas à jour. Donc, il y a une vraie stratégie à définir en fonction de la criticité et du type de package. Enfin, en général, tout ce qui est framework.net, moi, j'y vais grosso modo plus ou moins safe. Exception faite, par exemple, comme je le disais, en entreprise, d'attendre un patch ou deux, parce que bah, avec .NET 7, on a eu l'exemple parfait et Blazor qui avait foiré sur le bindget 7 qui était complètement foiré. Mais sinon, après, sur la communautaire, c'est vrai que là, c'est une vraie question et ça va dépendre, je pense, de qui c'est qui est derrière le package et s'il y a un support vraiment pro ou pas, quoi. Si c'est pas le package du gars dans son garage ou si c'est vraiment une boîte d'air qui dit ok, nous on peut, si t'as du support payant, tu peux l'acheter et on fera le nécessaire pour traiter une version qui marche, quoi.
Gérald travaille jamais dans son garage, je crois, donc
j'ai pas de garage, c'est bon,
donc voilà, ça évite des problèmes,
hein. Garage. Tu peux prendre les packages mais en tout,
voilà, bah j'écoute, je les installe, je les installerai tout à l'heure et je l'envierai.
Bien.
Mais écoutez, tu vois, juste pour rajouter un tout petit peu, il y a aussi des, enfin il y a pas mal enfin, il y a des projets qui existent, par exemple DependaBot ou Renovate aussi, pour aider dans ces migrations-là et garder ces paquets que j'ajoute. C'est qui font aussi des infos qui peuvent être pertinentes. Je pense plus à Renovate, d'ailleurs, pour le coup, qui, par exemple, quand tu as une update, peut te dire, bah, parmi tous les updates qu'ils ont fait, les pipelines passent en général à 80%, ou tu sais, le package, ça donne un taux de confiance aussi quand tu veux mettre à jour un package. Là. Donc, ça peut être intéressant. Et puis déjà, tu es notifié qu'il y a un nouveau package aussi, parce que c'est un des premiers problèmes, c'est que les gens sont pas au courant que leurs dépenses sont pas à jour. Donc, avoir une petite pull request créée automatiquement à chaque fois qu'il y a un nouveau package, bah, c'est bien.
Il y a aussi un truc pour clôturer sur le sujet. Si on prend la dernière preview de .NET, .NET 8 Preview 5, on voit que Microsoft met beaucoup d'efforts sur la gestion des packages parce qu'ils ont fait un peu un truc à la NPM avec les audits qui permet aujourd'hui d'auditer ta solution depuis directement depuis le CLI.NET et te dire tiens, tu as des packages qui sont outdated et qui ont des failles de sécurité qui sont medium, low, critical. Donc ça permet dans ça, tu mets ça dans un pipeline, tu te dis si j'ai une critical, je fail mon pipeline et comme ça en fait, ça te rajoute aussi un niveau de sécurité parce que dans l'update, il y a la mise à jour fonctionnelle. Mais aussi la mise à jour sécuritaire. Et ça peut avoir un gros impact sur certains projets. Quoi.
Attends, tu peux expliquer ça
En fait, là, dans la.
Je vois bien dans NPM comment ça marche, mais avec Nugget.
En fait, c'est NPM, pareil. C'est simple. À la fin du build, il te dit toujours tu as des packages vulnérables. Tu vois, c'est même pas conditionnel, tu vois. Ça, c'est NPM.
Oui. Alors que dans la dernière version de .NET, alors. C'est en chantier, donc je ne sais pas encore comment ils vont le gérer, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que maintenant, dans le CLI, tu as la possibilité d'avoir soit au build, soit sur une commande dédiée qui te permet d'inspecter tes références Nugget et de te dire s'il y a des trucs qui sont des failles de sécurité. Il y a eu un tollé à un moment dans la communauté, il y a quelques mois de ça, avec le package newtonsoft.json, qui avait eu une faille qui avait été référencée critique par un dépôt et qui avait fait affoler la planète entière de GitHub avait dit à tout le monde ouais, vous avez Newtonsoft qui est une faille critical, votre projet est foutu. Et donc ça a fait un énorme truc et je pense que à la suite de ça Microsoft a réagi en disant ok, sur Nugget on va mettre en place pas mal de trucs, on va virer l'HTTP, on n'aura que HTTPS et on va rajouter aussi dans le CLI un truc d'inspection, d'audit pour les failles et du coup t'as un rapport maintenant qui peut être sorti.
Ce sera dans .NET 8 ?
Ouais.
C'est, cool. C'est déjà dans les previews, okay. Je crois que toute dernière preview doit l'avoir, ou dans la preview 6 là, qui sort.
Preview 5, ouais, c'est déjà là, ouais. J'en ai fait la review sur ma chaîne, et justement, je présentais ça, et ils font pas mal d'efforts sur Nugget. Bah, c'est un peu central aussi dans l'écosystème .NET maintenant.
Ok, bien, bah, merci Christophe.
DevDevDev.NET Richard Clark.
Donc on va passer à Michel qui va nous parler d'un truc qu'on entend tous les jours à la radio qui concerne donc ça s'appelle la Sustainability Index.
Ouais. C'est un sujet qui arrive de plus en plus dans les entreprises, surtout celles qui sont sur le cloud. C'est cette capacité à non seulement mesurer, on mesure déjà combien nous coûte la plateforme, hein, puisque ça, on a la facture à la fin du mois, mais surtout quel est l'impact carbone de nos infrastructures cloud sur le que l'on met en place. Et c'est un très gros sujet parce que autant déjà c'était difficile avant de savoir quel était l'impact carbone d'un data center privé, parce qu'on n'a pas tous les facteurs. Autant les cloud providers tous fournissent font une grosse partie de l'effort pour nous donner des informations sur l'équivalent carbone de leur plateforme pour pouvoir avoir cet index là. Alors ça a plusieurs intérêts, c'est permet de se projeter sur cette consommation. Ça permet aussi d'expliquer que passer sur le cloud public ou cloud privé par rapport à un cloud privé, c'est consommer moins de carbone. Donc c'est aussi une bonne pub pour les cloud providers. Mais au-delà des métriques qui peuvent être par exemple sur Azure, on a soit des métriques sur Azure elle-même, on a aussi des métriques sur Office 365, donc sur l'usage de la plateforme, l'usage des services, nombre d'utilisateurs, l'utilisation des services. Ça permet aussi de vraiment de donner une trajectoire carbone de l'entreprise et de trouver des axes d'amélioration. Donc sur la partie Office, on va plutôt être sur l'usage. Sur le stockage de documents, sur l'utilisation. Et sur Azure, on va vraiment en plus de l'information que nous fournit Microsoft sur les data centers, qui n'ont pas tous le même impact carbone, parce que je prends par exemple des data centers c'est l'exemple qu'ils donnent régulièrement en Australie, qui tourne, parce que c'est quand même une île où ils tournent massivement au charbon, avec un énorme impact carbone, c'est-à-dire que si on consomme 1 euro de ressources Azure en Australie, on va pouvoir produire plus d'équivalent carbone qu'en France, par exemple. Donc il y a ces notions là et aussi ça nous donne des axes d'amélioration pour améliorer nos infrastructures, donc ça peut être de la concentration de ressources d'applications, ça peut être aussi des axes d'amélioration sur les process de surveillance, de supervision, parce qu'on consomme aussi pas mal sur ces axes là. Donc Il y a tout un framework qui est fourni qui permet de, d'identifier des axes d'amélioration dans nos propres logiciels, dans nos propres designs sur cette partie CO2. On a aussi des index sur le, on se branche directement sur Azure et sur Office 365 pour nous donner des métriques de consommation.
Mais ça, j'ai dit, out of the box, tu les as dans, sur le ouais. portail, sur le portail.
En fait, c'est des portails Power BI que tu rajoutes qui permettent de donner des informations.
D'accord.
Après, tu peux les ventiler, tu as des mécanismes de ventilation pour pouvoir les ventiler sur les services. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir, déjà, avant d'essayer de s'améliorer, c'est d'avoir une mesure et de pouvoir déjà calculer ça. Donc, ce n'est pas des chiffres en l'air. Hein. Il y a plein de, d'outils qui sont utilisés. Il y a quelque chose qui s'appelle le GHG protocole, qui est un protocole qui permet de ça veut dire greenhouse gas protocole, qui permet d'identifier les consommations et les données et les catégoriser entre les consommations que je crée, la consommation en carbone que je crée, la consommation que je consomme, la consommation indirecte par le matériel que j'utilise ou par rapport au matériel que je vais mettre au rebut, être recyclé. Donc il y a toutes ces catégories là qui sont créées. C'est vraiment comme de la comptabilité carbone, hein, mm-hmm. Qui permet d'aider à calculer tout ça. Donc c'est pas ça demande du travail, mais ça donne une bonne vision de ce qu'on est capable de faire. Et je pense que ça peut donner un bon axe d'amélioration dans les entreprises pour essayer de viser un logiciel plus économique en carbone.
Et tu peux faire des simulations en disant, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais prendre un exemple bête et méchant, j'utilise un système de web API standard, ou alors j'utilise des serveurs Kubernetes, etc.
Non, t'as pas ça, parce que ton application, en fait, il y a plusieurs éléments qui vont permettre de calculer le coût de carbone de ton application. Ça va être déjà ton infrastructure, ton coût de développement, les personnes qui vont venir sur site, peut-être en voiture, pour maintenir ton application. Les données que tu échanges avec tes applications, avec tes utilisateurs, si tu consommes chaque fois qu'ils vont se connecter, ils ont besoin de télécharger 10 gigas de données, tu vas consommer du carbone. Donc c'est vraiment tout ça qui permet de regarder ce framework là. Il est assez complexe, mais il permet de penser à tous ces axes de possibles de consommation pour essayer de les réduire. Donc on va pas forcément avoir des simulateurs, mais plutôt des axes de réflexion qui vont permettre de réduire la consommation. D'accord. Au-delà même du coût de la plateforme, quoi.
Tu fais un constat, quoi.
Voilà, c'est ça.
Il prend en compte les aspects telco.
C'est...
Kizako ou telco?
C'est les infras au niveau du réseau des télécoms.
Ouais. D'accord. En fait, on a dans le Greenhouse Gas Protocol, on a des scopes. D'accord. Et en fait, les dashboards renvoient des scopes. Et on a différents scopes. On a le scope 1 qui est en gros ce que nous on consomme pour maintenir notre application. On a le scope 2 qui est plutôt l'indirect, tout ce qui est émis pour l'énergie qu'on récupère. On a aussi le scope 3 pour tout ce qui est l'arrivée du matériel, la sortie du matériel, les interactions des gens autour de ce qu'on produit. En fait, on va plutôt comme de la comptabilité, en fait, on va mettre le CO2 dans un scope et on va essayer de le compter. Il y a des scopes plus simples que d'autres à capturer, donc les scopes 1 et 2 qui est combien coûte ma plateforme cloud et combien coûte l'électricité, c'est facile parce qu'il suffit de savoir où est le data center, dans quel pays il est, donc on a l'équivalent CO2 du pays. Mm-hmm. Il y a Electricity Map qui le donne, on sait combien coûte le kilowattheure à tout moment de la journée. Chez Azure, ils savent combien ils consomment en CO2 dans leur data center, donc ces scopes-là, ils sont assez faciles à avoir. Et puis, ils ont une meilleure vision d'où vient leur matériel, comment il a été fabriqué, puisqu'ils essayent de maintenir la chaîne. Et c'est là où ça va être dur, c'est que nous, notre consommation autour de ce logiciel-là, combien on consomme pour le maintenir, le faire évoluer, faire le run de la plateforme. Donc voilà, ça te permet de se concentrer déjà sur une partie plus petite en scope, même si des fois c'est la partie la plus grosse en CO2, et avoir déjà des métriques d'optimisation. Okay. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place dès le départ ça, quand on met des plateformes Azure, pour que ça devienne finalement une routine de regarder ça, un peu comme le FinOps, on appelle ça le GreenOps. Ouais, comment optimiser nos coûts de CO2 qui ne sont pas forcément corrélés au coût de consommation en euros, quoi.
D'accord. Ok. Bon,
tu vois, ils avaient même été un peu plus loin pour aider les gens qui font du Kubernetes sur Azure. Là, ils avaient fait un autoscaler là, avec Keda. c'est le Kida.sh là, qui permet d'auto-scaler tes ressources. Ils avaient fait un provider pour justement être carbon aware. Là, comme ça, tu peux scaler plus ou moins selon le coût de l'électricité, à quel point elle est polluante. Là.
Ouais. Et on a des sondes maintenant dans Windows 11 qui permet de mieux consommer, de réduire sa consommation pour pouvoir savoir à quel moment débrancher la batterie, l'allumer. Enfin, ça arrive petit à petit dans l'OS. Donc, je pense qu'on est plutôt dans la phase où on capture de la donnée. Et on va, je pense, bientôt arriver dans la phase où on va commencer à optimiser ces données-là. Je pense que c'est encore difficile d'optimiser parce que finalement, on essaye plutôt d'optimiser le coût. En réduisant le coût, généralement, on réduit l'empreinte carbone. Mais c'est vrai que les deux axes sont très corrélés pour l'instant, mais je pense que les axes les plus difficiles, c'est quand on corrèle pas les deux. Quoi.
D'ailleurs, c'est dans Windows Update où ils disent qu'ils cherchent à optimiser la diffusion des patchs pour que ce soit fait au moment où ce soit le plus green possible. Quoi.
Voilà.
Ok. Alors, normalement, il y a Jérémy qui nous a rejoint. Jérémy Janson, bonjour.
Yes, bonjour.
T'es sous la douche, là, ou quoi?
Non, je suis pas sous la douche.
Il y a un souffle, c'est un bonheur.
Ah, il y a peut-être un ventilateur, effectivement, qui a beaucoup de mal. Il fait chaud.
Sans retire le masque, Dark Vador.
Oui, c'est ça, ouais.
Il fait très chaud en Champagne, donc voilà.
Toi, tu voulais nous parler de Wix.
Oui.
Un projet qui avait été développé, alors c'était pas Microsoft Garage parce que ça n'existait pas à l'époque, mais par un gars chez Microsoft qui a lancé ce projet-là et puis ensuite a monté sa propre société pour apporter le support de Wix.
Tout à fait. Un petit projet récent, Wix. Alors, qu'on soit clair, on parle de Wix tout set, hein, pas confondre avec le CMS, je ne sais même plus si on n'est pas encore CMS aujourd'hui.
Oui,
je pense qu'on peut encore utiliser l'expression. Oui. Hein. C'est la preuve qu'on parle du siècle dernier. Oui, c'est effectivement un produit qui n'est pas de ce siècle. Comme tu le disais, donc, Richard, c'est un projet qui a été commencé par Rob Lenching. J'ai peur d'égorger ce nom. Malheureusement. Donc Rob, c'est un ancien stagiaire qui est devenu salarié Microsoft et puis qui a commencé à travailler sur Orca. C'est une des solutions, hein. c'est pas du tout récent. Hein. Donc en 99, ils ont lancé Wix. En 2004, en fait, Microsoft a trouvé que c'était un projet qui était intéressant. Ils ont dit, bah tiens, on va le rendre open source. Alors il y a 5 ans de version de l'histoire. Hein. Il y a une version qui dit c'est un chef de projet qui s'est dit on a envie de prouver chez Microsoft qu'on sait faire l'open source. Il y a d'autres versions qui disent bah en fait on a envie de le partager à tout le monde. C'est pas très clair. Disons qu'en 2004 ils ont rendu ça open source. En 2006, c'est rigolo parce que en fait en interne chez Microsoft, c'était reconnu et surnommé comme étant le logiciel le plus utilisé chez Microsoft. Alors, pour être clair sur ce que fait Wix, parce que je suis un peu bête, hein, je suis parti vite, hein, je suis parti à fond dedans, c'est un outil qui permet de faire des installeurs. Alors quand on dit qu'on fait un installeur avec Wix, on va produire du MSI, on va produire aussi des exécutables, pour faire du bootstrap, pour faire la détection de composants déjà installés sur la machine, de fonctionnalité Windows, ainsi de suite. Donc c'est assez poussé. Et puis donc on va pouvoir procéder à la préparation de tout type de MSI. Alors là, je ne peux pas être plus large sur le sujet, on fait tout avec Wix. Le côté qui est sympa avec Wix, c'est qu'en fait, pour les gens qui ont aussi des produits assez coûteux, comme InstallShield par exemple, là on a un produit qui est gratuit, qui est certes, comme c'est Richard, est soutenu par une entreprise derrière, donc Rob a monté son entreprise, vendu service. C'est pas spécialement donné, mais disons que le principe, en fait, c'est de permettre d'accéder à un support d'un niveau nettement supérieur à ce qu'on peut trouver sur GitHub, et entre autres de voir potentiellement intégrer des fonctionnalités personnelles dans le produit, et en plus de pouvoir générer des MSI Hits. On parlait déjà ici sur le podcast. Donc c'est assez sympa, c'est complet, c'est open source, ça donne le contrôle sur tout. Que dire? Bah, en fait, on en parle, enfin, moi j'en parle depuis quelques mois parce qu'il y a surtout une version X4 qui est sortie. qui est un énorme chamboulement au niveau du produit, à plus d'un titre. Historiquement, ce 3, quand on l'utilisait, on dépendait de .NET 3.5. Il fallait avoir un .NET Framework 3.5 installé sur la machine. Il fallait avoir le 8 ou 7 installé sur la machine. Il fallait avoir une extension pour faire le fichier pour Linux. Il y avait beaucoup de conditions. Ça pouvait être contraignant. Au niveau des builds, il fallait que ces agents soient paramétrés pour autoriser l'accès à la session. C'était pas évident. Ça marchait déjà très bien. Mais Quiz 4, en fait, ils ont fait sauter toutes les barrières. La première chose qui a été faite, c'est une transformation au fameux format projet SDK, si cher à .NET Core. Donc c'est une très très belle avancée, ce qui fait que l'ensemble du tooling est déployé via Nuggets. C'est aussi une très très belle avancée. Et on n'a plus de contraintes au niveau du tooling. Donc au niveau des builds, vous pouvez envoyer vos builds un peu partout. Il n'y aura jamais de difficulté à les paramétrer. C'est une très bonne chose. Et puis, ils en ont profité, c'est-à-dire que tout s'est modernisé. Par exemple, avec Lisp 7, on peut avoir des actions personnalisées écrites en C# ou en C++. Et on va avoir un projet .NET où on va pouvoir effectivement profiter de toutes les largesses des nouveaux formats de fichiers liés à .NET Core. Par contre, quand on fait du C#, on ne cible que du .NET Framework aujourd'hui. Alors, il n'est pas dit que les choses n'ont pas évolué. Hein. Les puristes préféreront faire leur installeur avec des composants C++. Bon, pourquoi pas. Les deux sont possibles. Les deux marchent très bien. Je suis tenté de dire que si vous n'avez pas encore aujourd'hui sauté le pas, que vous avez encore des vieux outils pour faire des MSI, regardez Wix. Tout est ouvert. Donc, je veux dire, il y a eu beaucoup de frayeurs à une époque en pensant que ce produit est devenu fermé parce qu'effectivement, il y a une entreprise qui a été créée. C'est pas du tout le cas. Donc c'est la partie très intéressante. Le format licence fait peut-être un petit peu peur parce qu'il faut le lire, puisqu'en fait, vu que c'est une vieille licence, c'est une vieille licence ouverte de Microsoft, c'est ce qu'ils appellent la MSRL, ou Microsoft Reciprocal Licenses. C'est un petit peu ardu à lire, mais en gros, on a un usage commercial qui pose pas de soucis. C'est la chose qu'il faut retenir. On peut participer au projet, donc on a la possibilité d'aller sur GitHub, pour faire des propositions. C'est un projet qui est très très vivant, donc Rob fait des réunions mensuelles qui ouvre à tout le monde. On peut participer, il présente ses sujets, il présente sa roadmap, il présente vraiment le produit là où il va aller. Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant ils ont un petit peu fermé la partie MSI, mais bon, il n'est pas exclu qu'un jour ils finissent par ouvrir les vannes. Pour ceux qui se posent des questions, savoir qui utilise. Inévitablement, oui, il y a Microsoft qui utilise. Alors, ils utilisent sur des petits produits, soyons clairs, du Office, du Visual Studio. Entre autres, ça donne les fameux installeurs qu'on avait à partir de Visual Studio 2012, qui avait une interface assez bien foutue. Ils utilisent aussi, historiquement, pour du SQL Server et du Exchange. Donc, vous voyez, on est vraiment, ça donne un peu une idée de la gamme de produits qu'on peut packager avec ce genre de solution. Forcément, il y a une entreprise tiers qui utilise. Pareil, on n'est pas chez les petits, on est sur du Apple, on est sur du MC, on est sur l'IBM. Donc, des gens qui profitent bien de la plateforme, qui apparemment l'apprécient, et qui, moi, j'ai pas trop suivi, mais apparemment participent très bien aussi sur GitHub en termes d'échange et d'informations. Autre chose que j'ai trouvé assez sympathique, parce que moi, ça fait longtemps que je suis le projet, c'est que Rome, en fait, utilise le GitHub vraiment comme un système de pense-bête et de communication très avancée. Donc, régulièrement, quand il y a une fonctionnalité, en fait, il est présent dans la partie issue. On peut suivre, on peut voir les moments, on peut voir l'avancée, si les choses ont été faites, sinon, si les choses ont été refusées. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Pour l'instant, je suis tenté de dire que moi, j'utilise depuis Visual 2012. Je cherche toujours, j'ai toujours pas trouvé de défaut. Ouais, c'est un peu la bonne nouvelle, je vais conclure sur quelque chose. Pour l'instant, pas de défaut à chose. Ça reste du MSI, c'est plus ou moins ardu. Il y a des moments où on va s'arracher les cheveux sur des choses particulières. Je pense entre autres à tout ce qui va être intervalle graphique. Il y a des... Comment dire? C'est du MSI, donc il y a des patterns à connaître, c'est un peu comme quand vous faites du code. Je vais prendre le pattern le plus courant, c'est ce qu'ils appellent le remember. En gros, le principe, c'est quand on fait son installation, il y a forcément des éléments que l'utilisateur va être amené à choisir. Dans Wix, vous n'êtes pas sur un outil où le système fait tout pour vous. Vous êtes dans un outil où vous allez dire, je rends paramétrable, par exemple, le nom d'un service, inévitablement, il va falloir enregistrer dans la base d'enregistre le nom qui était saisi par l'utilisateur pour qu'au moment où vous désinstallez le service, évidemment, vous procédez bien à des installations propres de ce service. Mmh. L'exemple, il est valable surtout, il est valable pour du 2IS, parce que j'utilise sur du 2IS, il est valable sur du service Windows, il est valable pour du paramétrage de fichiers, vous faites tout avec, je ne vais pas dire c'est la Rolls, parce qu'elle est gratuite, c'est une sorte d'équivalent.
Ok, moi je me souviens que je m'étais penché un peu sur Wix, mais au tout début, et là franchement c'était le cauchemar, parce qu'au niveau de la configuration...
ça fait peur.
Ça faisait peur, oui.
Bah, moi j'avais fait de l'install sheet, parce que l'interface graphique quand même c'est bien pratique.
Moi j'avais fait beaucoup d'install sheet avec les versions, donc VB6, pardon, ça fait mal, et puis les versions d'après. Et là où moi j'ai souffert en fait à cause de ces produits, c'est qu'il y avait un certain nombre de d'éléments qui pour moi n'étaient pas clairs, n'étaient pas acquis. Dans tous ces produits en fait, on a tellement d'interfaces qu'on oublie complètement que le MSI, ça reste une base de données. En français, c'est la première
fois
sur le sujet la semaine dernière. Ça reste une base de données et c'est souvent ce qui fait mal. Les gens pensent qu'on programme un MSI. C'est bien plus complexe que ça. Et la plupart des produits nous laisse penser qu'on ajoute des comportements alors que c'est pas du tout ce qu'on fait.
C'est pas linéaire. Hein. D'ailleurs, quand tu ouvrais les MSI avec Orca, tu le voyais.
Ah oui, bah Orca, de toute façon, quand on disait Orca la première fois, ça faisait mal, ça piquait. Hein.
Ouais. Et quelqu'un d'autre qui utilise Wix, Christophe ou Gérald?
Non, on l'utilisait avant, là où je travaillais avant, mais depuis, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Puis tu sais, maintenant, il y a aussi dans Visual Studio, c'est un composant optionnel à installer, mais tu as le MSIX Packager là, qui permet justement de faire des MSIX facilement pour les applications .NET. Donc, ça me semble être une meilleure stratégie pour les installeurs simples. C'est MSIX, enfin Wix permet de customiser les trucs de manière très très avancée là. Mais en général, l'avenir serait plutôt les MSIX. Donc,
ouais. Alors,
ça fournit quand même des avantages, les MSIX, là, sur tout ce qui est. C'est parce que par défaut, ça vient avec les fonctionnalités de pouvoir isoler ton application, etc., d'avoir des uninstall qui sont clean, enfin, des choses bien faites, quoi.
Alors, moi, j'ai des contextes un petit peu tendus. Donc, nous, on a mis à faire du MSI pour déployer les applications. Et entre autres, générer du ClickOnce derrière. Donc, c'est une espèce de mix qu'on pourrait avoir avec ClickOnce. Petite particularité qu'on a avec le MSX, c'est qu'en fait, on peut se déployer partout. Aujourd'hui, le MSX, on est quand même assez restreint. Et tant que Microsoft ouvre pas les vannes, on est déjà sur un serveur, on peut pas. Donc, pour une application serveur, on peut rien faire. Si on veut déployer du site web, enfin, c'est pas possible. C'est un petit peu la limite du jour, quoi. J'espère qu'il a fait sauter.
Mais ça existe toujours, ClickOnce?
Yes.
Ah oui. Ah oui, oui, oui.
Et d'ailleurs, c'était
je l'ai mis à jour. Je l'utilise tous les jours.
Ça avait été retiré de .NET Core et c'était rajouté, je ne sais plus quelle version.
Oui, avec, je ne sais plus, c'est la 5, avec la 5, je crois.
Non, bah, je vais aller pendre alors.
Oui, bah, si tu veux, mais t'attends la fin de l'émission.
C'est ça. Aussi bien.
Ah ouais, bah, c'est toujours aussi bien, oui, tu peux le dire.
Les gens ne savent pas paramétrer des IA, c'est une autre histoire.
Ouais. Moi, je trouve que le vrai problème avec les installeurs, c'est la partie signature des packages. Et dès que tu n'as pas cette partie-là, ça part en vrille assez vite avec les versions, les updates. Et je trouve que les prix des manifestes pour signer les clés pour signer les packages sont hors de prix comparé aux clés qu'on a sur du pour tout ce qui est site web, alors que ça fait à peu près la même chose, quoi.
C'est exorbitant.
Ok.
Et que ça va pas aider non plus. Il faudra un net sign it du manifeste applicatif.
Bien. Eh ben, merci Jérémy. Tu peux éteindre le ventilateur.
Je vais couper le ventilateur.
Juste avant de passer la main à François, moi je voulais juste vous parler un petit peu de sémantique kernel. Donc il y a eu une annonce cette semaine ou fin de semaine dernière où ils annoncent un petit peu vers où, enfin leur roadmap vers où ils vont et donc qu'est-ce qu'ils vont fournir à la fin septembre. enfin septembre, enfin il parle de l'automne. Donc il y a bien sûr le support de tout ce qui est plugin, les fameux plugins pour OpenAI qui vont être supportés par Semantic Kernel. Ensuite, il y a un certain nombre d'améliorations pour tout ce qui est planeur. Donc vous savez, quand on pose une question à son produit, derrière il y a un certain nombre de tâches qui sont à faire, qui sont à planifier, donc il y a des planeurs qui sont à créer, et donc ils sont en train d'améliorer ces différents planeurs qu'ils proposent pour justement faire une découverte des skills, des plugins qui soient améliorés au niveau des performances et qui montent en charge un peu plus facilement. Un autre point qui est super important, c'est l'ajout de la télémétrie. Donc là, on devrait avoir une première preview d'ici quelques jours de l'intégration de la télémétrie à l'intérieur. Donc ça vous permettra de savoir dans tout votre process combien de tokens, par exemple, ont été consommés par votre application, de pouvoir gérer, de pouvoir tracer les erreurs d'appel ou les différents appels qui ont été faits. Et tout ça étant permettant de se loguer avec le logger que vous voulez, donc qui sera complètement agnostique. C'est pas forcément les loggers de genre App Insight, genre de choses qui seront utilisées. Ensuite, il y a tout ce qui est amélioration de leurs applications exemples qui vont arriver. Et puis, il y a également le support de différentes databases de vecteurs. Pour l'instant, il n'y avait que Qdrant qui était supporté. Donc maintenant, on va avoir Pinecone, Redis, bien sûr Cognitive Services, puisque Cognitive Services maintenant supporte les vecteurs au sein de sa database. Ils vont améliorer les tools pour VS Code. Et puis aussi une grosse demande qui a été faite, c'est, vous savez, on demande souvent, j'ai un document, et ChatGPT, fais-moi un résumé. Donc là, ça marche très bien quand on a un petit document, mais quand on a un gros document, un PDF de 600 pages, ça devient un petit peu compliqué. Et donc là, on est obligé de faire du chunk, c'est-à-dire de le décomposer en différents morceaux, puisque ChatGPT supporte que du 32 000K ou du 64 000 si on a du GPT-4. Mais il y a des stratégies de découpage qui sont à mettre en œuvre et qui donnent des résultats qui sont complètement différents. Donc vous pouvez dire, par exemple, je vais décomposer tous mes chapitres, puis je vais faire un résumé de chaque chapitre, et puis après je fais un résumé des résumés de chapitres. Ou alors je prends juste des longueurs de X mots et puis je fais un résumé de ces longueurs-là et puis après je refais un condensé, etc. Donc il y a toute une stratégie qui est à mettre en place qui n'est pas forcément évidente et qui donne des résultats différents suivant la stratégie qu'on a. Et donc ils vont proposer les différentes options de chunk avec cette release qui arrivera à l'automne prochain. Mais en attendant, on a les vacances, et pendant les vacances, qu'est-ce qu'on fait? On lit des magazines. Et donc, et notamment, on lit programmé. Donc, il y a le numéro d'été de 2023 qui vient juste de sortir, et donc qui fait pas du ChatGPT, qui fait du Twitch sur Minitel.
oui, mais en plus, c'est vrai. Et ça provient, c'est drôle d'ailleurs. C'est
j'ai pas l'habitude de raconter des conneries non plus.
non, ça fonctionne très très bien. En fait, c'est dans la suite logique de l'an dernier avec notre hacker le Minitel, ou comment on ressort les vieux Minitel et qu'on lui reforme de l'ESP32 sur la DIN 5 à l'arrière. Et ça fonctionne très très bien aussi, il faut dire. C'est un projet assez drôle. En fait, c'était un défi d'un développeur. Il s'est dit, j'ai un Minitel, j'ai une chaîne Twitch, comment je peux faire les deux? Et donc, c'est un projet qui nous propose de découvrir. Alors, un petit peu dans le même esprit, il y a un dev de Zenica qui te propose de développer un escape game aussi.
Oui.
En entier, interactif et tout, donc ça c'est pas mal. Hein. C'est pas le sujet, c'est pas du C#, mais on a du Flutter aussi. On a 5 outils incontournables pour les développeurs Flutter. Parce qu'il y a des outils sous Flutter, il ne faut pas croire. Hein. Effectivement, on a pas mal de choses sur ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on parle un petit peu de ChatGPT quand même, parce que bon, voilà, il faut quand même en parler un petit peu, évidemment. On va parler de sécurité dans Terraform. Aussi. Tu parlais de GreenOps. Moi, je parle plutôt de FinOps aussi.
C'est aussi bien.
Voilà.
Ça va dans la bonne direction aussi.
Voilà. On va avoir du Kestra. On a un petit peu de HPE, GreenLake et du Terraform. On a comment on déploie une infra-edge avec des PI. Donc, ça, c'est toujours intéressant de voir. Comment en fait on crée des infrastructures local edge avec ce type de carte, ça c'est pas mal. Pour ceux qui connaissent notre ami Alain Zonketa, le connaissent ici quand même, il nous fait un très très bon article sur l'OpenXR. Donc si vous connaissez pas, en fait c'est un des standards aujourd'hui autour de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.
Un long article.
Un long article, très intéressant. Ça pose un petit peu les bases sur ce qui pourrait arriver comme type de standardisation dans les prochaines années. Parce que c'est en débat aujourd'hui. Et dans le monde un petit peu de faire soi-même Python et Maker, on a un dossier qui revient sur les dernières évolutions de la PipStick. Hein. Donc là, on est dans du MCU autour de l'ESP32. Ça, c'est très intéressant toujours.
Ah oui, c'est au début, là. Oui, mais j'ai rien compris, là.
Bah voilà, après, effectivement, si tu ne fais pas beaucoup d'ESP ou de monde maker ou de prototypage, c'est vrai que les MCU, ça peut passer un petit peu au-dessus. Mais c'est intéressant parce que c'est un domaine qui évolue quand même beaucoup. D'ailleurs, tu as les nouvelles cartes Arduino qui sont sorties il y a même pas un mois et qu'on est en train de tester d'en programmer. Voilà, et qui intègre aussi un processeur ARM aussi à l'intérieur. On a aussi un résumé des conférences KubeCon aussi, Europe, qui a eu lieu au printemps dernier. Et c'est déjà pas mal. Si je peux terminer avec une petite présentation du langage Julia aussi. Voilà, le langage qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est jamais inutile d'en savoir plus. Voilà. Il est là.
Et toujours avec la petite comic strip à la fin.
Ouais, tout à fait. Donc ça ne change pas. Et en plus, celui-là, il est quand même pas mal. il est un petit peu ancien en date, mais toujours il est un petit peu d'actualité. Ouais, on va dire ça comme ça. Et puis pour les amateurs de serpents, on a toujours notre hors-série Python qui est sorti en juin dernier. Donc 100% Python, où là, on va interagir avec du chat GPT en Python. On fait du SCAPI. Donc si vous êtes très pro au niveau sécu, SCAPI, c'est un des outils les plus utilisés dans la cybersécu. Donc ça, je vous le conseille vivement. Et on va parler aussi de Django, on va parler de Socket, on va parler d'SQL en Python. Et de la lib standard en Python. Voilà ce que je peux dire. Donc évidemment, c'est disponible, c'est en kiosque abonnement, papier et PDF.
La bonne lecture pour cet été sur la plage.
Oui. Je confirme.
Là où sont déjà partis les autres, là. Bien, merci à vous. Bonnes vacances à nos auditeurs également. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Ciao tout le monde.
Ciao. À bientôt.
Ciao.
Bonnes vacances.
Oui, au revoir.
Reposez-vous, codez pas tous.
7 épisodes est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée ou nous contacter sur Reddit ou via Twitter @devdevdev.net. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain pull request.